très juste un petit commentaire. Alors, je ne connais pas la formule par cœur, mais je suis sûre que Charles la connaît. Toute ressemblance avec... avec des personnes existantes, etc. Et je dirais, là n'est pas fortuite. Vous savez, en général, quand je prépare un message, je le relis à la fin pour que personne ne puisse dire « elle m'a visé ». Et si je sens que quelque chose peut concerner un entretien que j'ai eu avec quelqu'un, et je l'enlève en général. Parce que je veux pas, j'ai trop entendu des messages qui étaient ce que j'appelle des messages téléphonés, hein. On se sert du micro pour envoyer des réflexions aux uns ou aux autres. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc en général, je relis mes messages pour enlever tout ce qui pourrait être interprété de cette manière. Je prie d'ailleurs, Seigneur, montre-moi s'il y a des choses qui peuvent choquer, qui peuvent rappeler des choses à l'un ou à l'autre. Je les enlève. Et bien là, je vais vous dire le contraire. Toute ressemblance n'est pas fortuite parce qu'on vit tous des échecs. Et ce serait impossible d'enlever tout ce que je crois concerner l'un ou l'autre, parce qu'on y passe tous. Et là, c'est vraiment impossible. Donc, si vous vous reconnaissez dans le message, j'en ai pas fait exprès, mais que voulez-vous, ça fait partie du message, j'y peux rien. On va tous se reconnaître. Moi, je me reconnais, donc tout le monde va se reconnaître. Donc, n'allez pas imaginer que c'était volontaire, c'est tout simplement normal. Là, si j'enlevais tout ce que je pense qui concerne l'un ou l'autre, il ne resterait peut-être pas grand-chose. Donc, c'est la vie. On va tous se retrouver, là, pour une fois. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que l'échec, on avait parlé de la définition de l'échec. Hein. J'aime beaucoup celle du Robert qui dit que c'est un revers éprouvé par quelqu'un qui voit ses espérances déçues, trompées. On avait parlé du bateau. Un bateau qui s'échoue, c'est parce qu'il a touché le fond. Combien de fois, hein, on pense avoir touché le fond. Qui est arrêté dans sa marche. C'est aussi s'arrêter par lassitude, rater, manquer, faillir, faire défaut, etc. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ça fait penser à la définition du péché, manquer la cible. Voilà. J'avais remarqué la dernière fois que l'échec, c'est quelque chose de douloureux pour les chrétiens. Doublement, plus douloureux que pour les non-chrétiens, parce qu'on est rempli de tous ces versets bibliques qui disent « Tout est possible à celui qui croit, je puis tout par celui qui me fortifie », etc., etc. Bon, parfois, on oublie qu'il y a des conditions, ça, on l'avait évoqué la dernière fois aussi, mais ceci étant, ça nous est d'autant plus douloureux qu'on pense vraiment qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, on avait parlé des différentes sortes d'échecs. Alors, le plus simple, bien sûr, c'est celui dont on connaît clairement la cause. Alors, Adam et Ève, Saül, David, Moïse, on avait passé en revue tous ces gens. Simplement, on n'a pas respecté les clauses du contrat, on n'a pas obéi. Consciemment, on a brûlé le feu rouge, on a brûlé le stop. Enfin, on n'a pas préparé ses examens, on n'a rien fait en classe. Voilà, les échecs typiques. Bon, on sait pourquoi. Hein. Donc, c'est assez simple à résoudre. On avait donné la solution, hein, reconnaître sa faute. Demander pardon, se repentir, renoncer à cette façon de faire, briser les liens que ça a pu poser sur nous, parce que souvent les mauvaises habitudes, ça dépose des liens, réparer ce qui peut l'être et puis rentrer dans le chemin d'obéissance. Alors, c'est peut-être un chemin douloureux, l'erreur volontaire, mais on connaît la sortie. Et il faut toujours se rappeler que Dieu est un Dieu des deuxièmes chances. J'aime pas trop cette façon de dire, mais c'est ça, il nous donne une deuxième occasion. Il nous donne l'occasion de rectifier le tir, de recommencer et de reconnaître la joie du salut, de se repentir, de pouvoir redémarrer. Hein. Et ça, j'aimais beaucoup ce chant, on le chantait beaucoup quand on faisait de l'évangélisation dans les rues. Tu peux tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger. J'aimais beaucoup ce chant parce que pour beaucoup de gens... Voilà, ils savent qu'ils ont fait des bêtises, ils les ont fait volontairement parfois, mais on peut tout recommencer avec Jésus pour berger. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'échec volontaire, après tout, c'est pas bien, bien sûr, mais c'est pas une catastrophe qui brise tout, parce qu'avec Jésus, on peut recommencer. Il faut simplement savoir se repentir. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile. On avait évoqué aussi le fait que Dieu se sert de nos échecs, mais on va en reparler, pour notre instruction, pour construire notre avenir, c'est le cas de Joseph et de Moïse, et pour nous rendre plus humbles, et quelque chose qu'on n'aime pas du tout, plus dépendants de Dieu. C'est sûr, c'est un peu difficile, mais c'est les échecs nous rendent plus dépendants de Dieu. Alors, à l'autre extrême, entre l'échec volontaire, on avait vu l'échec pour lequel on n'a pas d'explication. Et alors là, c'est encore plus difficile, c'est vraiment douloureux. Autant pour l'un, on sait pourquoi, hein, on a brûlé le feu rouge, on a eu un accrochage, bon ben... Hein. Mais de l'autre côté, quand on n'a rien fait pour et qu'on se casse la figure, ça fait mal. On a prié, on a essayé d'écouter Dieu, on a fait tout ce qu'il fallait, on a obéi au Seigneur, on a fait de notre mieux, on s'est examiné soi-même, on a demandé conseil, et pan, on se retrouve comme Job dans la difficulté. Alors, Job, l'histoire de Job a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce que je constate, c'est que Job, avec cette épreuve, est sorti d'un certain légalisme. Il est sorti d'un regard un petit peu pharisien avant l'heure. Hein. Si je fais ça, ça marche. Non, non, je fais ça, je me purifie, etc. Et j'aime beaucoup ces dernières paroles. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassaient et que je ne conçois pas. Voilà. Maintenant, je rentre dans l'humilité, je ne comprends pas tout et je reconnais que je ne comprends pas tout. Il a changé son regard sur Dieu, il a changé son regard sur la vie, sur lui-même, et il est rentré de nouveau dans la prospérité. Ça finit bien. Mais bon, parfois, on passe par ce genre d'épreuve, on se dit, mais j'ai tout fait comme il fallait. Seigneur, pourquoi? Alors, on n'a pas toutes les réponses. Je crois que quand on est chrétien, il faut accepter aussi qu'on n'a pas toutes les réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui se moquent de nous parce qu'on essaie d'avoir réponse à tout. Je crois qu'il faut être humble et dire on n'a pas réponse à tout. Mais on fait confiance. Il y a une part où on est obligé de faire confiance. Mais bon, je pense que Job, il y a peut-être d'autres réponses, mais en tout cas, celle-là, moi, m'a touchée. Je reconnais que tu peux tout et je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Voilà. Mais entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de cas. Alors, on ne peut pas les voir tous. Mais je pense qu'on avait évoqué la dernière fois déjà, celui qui choque un peu, c'est les échecs répétitifs, vous savez. On rate une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir des amis. Ça ne marche jamais. Au bout d'un moment, ils en ont, puis ça se casse, et puis ça casse. Ou bien dans tout un tas d'un boulot, ça ne marche jamais. On prend un boulot, on en prend un autre, et ça, on n'est jamais bien, ça marche jamais. Bon voilà, ça peut être au niveau des examens, ça peut être, voilà. Et les échecs répétitifs, je crois qu'il faut, dans un premier temps, se remettre soi-même en question. Seigneur, quelle est ma part? Il faut toujours commencer comme ça. Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois changer? Rechercher Dieu. Seigneur, c'est peut-être toi qui fermes les portes, il y a peut-être une raison. Peut-être Dieu demande de la persévérance, hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a des cas où il faut de la persévérance. Hein. J'avais cité Mine avec son permis, hein. On a persévéré, on a prié, elle a réussi. Et je pense qu'il y a des moments où Dieu nous demande d'être persévérants. Et c'est pas drôle. Hein. Et quand vraiment on a fait tout ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rechercher conseil. Rechercher un conseil pastoral, demander de l'aide. J'ai pensé aussi aux vœux insensés. Quelquefois, il y a des gens qui se heurtent à des problèmes parce qu'ils ont fait des vœux insensés. Jamais je ne ferai ça. Puis le jour où ils ont besoin de le faire, ah, ils essayent, ça rate. Ils essayent, ça rate. Puis on se dit, mais pourquoi? Mais c'est pas... Eh oui, parce qu'ils ont fait un vœu insensé un jour, ils ont dit, jamais je ne ferai ça. Et ils sont bloqués. Il y a aussi des malédictions parfois qui pèsent, héréditaires ou autres, qui nous empêchent, et c'est pour ça qu'on fait le torrent qui purifie, pour sortir de là, pour sortir de ces vœux insensés, sortir de ces malédictions, parce qu'on les oublie, ces choses-là. Dans un coin de notre tête, on sait qu'une grand-mère, ou un père, ou un médecin, ou un prof a proclamé vraiment une malédiction sur notre vie, du style « Oh, ce gamin, il fera rien dans ses études, jamais rien ». Puis on l'a accepté, on l'a intégré, et puis on bloque. Et quelquefois, c'est des malédictions à briser. Moi, je me souviens d'une personne intelligente, qui n'arrivait pas à faire aucun travail intellectuel, si petit soit-il. Or, elle était extrêmement intelligente. Moi, je l'avais vue à d'autres égards. Et j'ai appris simplement qu'un jour, un prof avait lu, en troisième, avait lu sa dissertation devant tout le monde et s'en était moqué. C'était une bonne élève à l'époque. De ce jour-là, elle était complètement bloquée. C'était fini. Et quand il fallait étudier, faire une petite étude biblique ou autre, on sentait tout de suite « Oh !» Touchez pas, je peux pas. C'était cette sorte de malédiction, hein, c'est cette mémoire qui l'avait bloquée. Oui, on a connu Urbain aussi comme ça, donc voilà. Donc, ce sont les échecs répétitifs comme ça. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide, à prier. Et je pense que le torrent qui purifie est là pour ça, justement. Et ça peut être vraiment un grand sujet de libération. Après, il y a une autre sorte d'échec. C'est ce que j'appelle, moi, l'échec apparent. Hein, on avait cité l'exemple de ces gens qui voulaient acheter une maison. Et rien n'y a à faire pour avoir cette maison. Tout s'est bloqué. Et en fait, peu de temps après, quelques années après, ils se sont aperçus qu'il y avait une usine de caoutchouc qui s'était construite à côté. Voilà. Il y a des moments où on croit échouer, mais en fait, c'est Dieu qui dit non. Non, tu vas être malheureux. Non, ça ne va pas marcher. Non, c'est trop moche pour toi. Non, ça ne va pas faire. Et on pourrait l'appeler l'échec protecteur, hein, l'échec apparent. On croit être en échec, mais en fait, c'est parce que le plan de Dieu est différent. Et c'est assez douloureux parce que sur le coup, on ne comprend pas. Ah, mais pourtant, j'ai travaillé, j'ai pas eu cet examen, j'ai tout fait, mon CV était impeccable, j'ai pas eu ce boulot. Et puis on apprend quelques temps après que c'était un boulot, la boîte elle a fermé, les gens étaient au chômage, enfin, il y a tout un tas de choses. Dieu sait ce qu'on ignore, et évidemment sur le coup nous on comprend pas. Donc le plan de Dieu peut être différent. C'est pareil pour l'appel de Dieu. Ça peut sembler un échec, justement. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, c'est quelqu'un qui est vraiment qui fait un beau travail pour le Seigneur, et il disait, mais nos enfants n'ont jamais accepté l'idée qu'on vit une vie très modeste, alors que si on avait pris le boulot pour lequel on se destinait, on serait très riche aujourd'hui. Et les enfants ne l'ont jamais accepté. Pour eux, ils le vivent comme un échec. Ah oui, mais on pourrait être dans l'abondance, et puis là, il faut qu'on compte. Ils ne sont pas malheureux, mais bon, ils sont juste ric-rac. Et pour eux, c'est un peu un échec pour les enfants. En plus, c'est des enfants adoptés. Et ils le vivent comme un échec. Et pourtant, ces gens-là, je peux vous dire, il suffit de les regarder, pour moi, ce sont des modèles. Des modèles. Ils vivent leur appel, ils vivent l'appel de Dieu. Et je les admire beaucoup, et on a beaucoup à apprendre de gens comme ça. Mais voyez, la même situation peut être vécue. Moi, quand je les vois, je dis « Waouh, c'est un succès complet !» Et quand les enfants le voient, ils disent « Oh, c'est un échec, on aurait pu avoir plein d'argent !» Voilà. Donc, la différence entre le plan de Dieu et nos plans à nous, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, après, on avait parlé de l'échec de l'apprentissage. Alors, ça, c'est les échecs qui nous permettent de nous améliorer. C'est les échecs qui nous permettent d'éviter les dangers. Vous savez, le petit enfant qui se brûle en mettant sa main sur la porte du four, il ne la remettra pas normalement, sauf exception. Il a compris que ce n'est pas la chose à faire. Il a appris quelque chose. Je vous expliquais que moi, je ne peux pas apprendre à skier correctement parce que je ne veux pas tomber. Et à partir du moment où vous refusez les échecs, vous n'apprenez rien. Voilà. Peu de ski de fond, ça passe tout juste. Mais voilà, le problème, c'est ça. Hein, l'échec, ça fait partie de notre apprentissage. Et ça, c'est dur à avaler. Mais ça fait partie de la vie. Apprendre à écouter Dieu, à mieux gérer notre vie, c'est ça l'intérêt de l'échec. À mieux gérer aussi nos relations. Hein, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué en classe maternelle comment les enfants se fâchent et se défâchent et se refâchent et se redéfâchent. Et on se dit, mais les petits, qu'est-ce qu'ils sont pénibles à se fâcher. Les gars, ils se battent. Après, c'est les meilleurs copains du monde. Et après, ils se redonnent un coup de poing. Et les filles, elles n'arrêtent pas de se fâcher, se défâcher. Elles ne se parlent plus, etc. Et en fait, ils sont en train d'apprendre les relations humaines. Ça fait partie de leur apprentissage. Et un enfant qui n'aurait pas eu du tout ces expériences, il va être très mal à l'aise étant grand dans les relations humaines. Donc voilà, ça fait partie de pour mieux gérer nos relations, tous ces petits échecs. Notre travail aussi, les échecs nous aident, même dans notre travail scolaire. Je me souviens du truc qui m'a vraiment choquée quand j'étais à la fac. J'avais un an d'avance, donc je devais trimer quand même un peu plus que les autres. Et on avait une nouvelle méthode d'étude de texte. Vous savez, ils en sortent tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu vos enfants, mais le peu que j'ai suivi les ados, là, ils changent tout le temps leur méthode d'étude de texte. Mais bon... Ils avaient sorti cette méthode qu'on appelle la méthode inductive, structurale, structuraliste. Et alors là, moi, j'étais perdue. Perdue, j'étais très consciencieuse et j'essayais de travailler. Et je me suis retrouvée avec un 7 à mon devoir. Et ça, c'était ulcérant. Échec retentissant, toute la semaine, ça m'a bouffée. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? C'est pas possible. J'ai jamais été géniale, mais bon, en principe, j'avais quand même au-dessus de la moyenne. Et ça me travaillait. Alors je me suis mis à travailler, j'ai écouté tout ce que le prof disait, j'ai même appris son cours par cœur. Il y a quelque chose qui va rentrer, c'est pas possible. Et puis petit à petit, je me suis forcée à utiliser cette méthode. Oh, c'était dur au début, je trouvais ça insensé. Mais c'était... Et puis, la note suivante, je crois que j'avais eu 12 ou 13, et puis ça s'est reparti. Et puis un jour, on a eu une conférence au groupe biblique universitaire, et je me suis aperçue que cette méthode était formidable pour étudier la Bible. Formidable. Et c'est celle que j'utilise pour vous préparer les messages. Bon, maintenant, évidemment, je suis à l'aise avec cette méthode, mais elle a démarré avec un échec qui m'a franchement ulcérée. Et voyez, l'échec, même pour notre travail scolaire, c'est ça qui nous permet souvent de mieux réussir. Donc, courage, courage quand on traverse un échec. On apprend grâce à nos échecs. On apprend de nos échecs. C'est très important. Et comme je disais la dernière fois, dans l'échec, la meilleure chose à dire, c'est « Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ?» J'y comprends rien, je ne suis pas content, je suis bloqué, je suis en colère, pourquoi pas, on a le droit. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cet échec? Et ça, c'est la bonne question. Et surtout, quand vous vivez un échec, essayez toujours de vous poser des questions. Je sais qu'André et moi, on aime bien faire ça quand on a un échec quelconque. Alors là, on peut passer des heures à discuter. Le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on a fait de travers, etc. Mais bon, si quelqu'un nous écouterait, il en aurait vraiment ras-le-bol. Mais c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Hein. Où est-ce que ça a coincé hein. Je ne sais pas si vous avez des fermetures éclair qui coincent. Mais en général, on les regarde de près, puis on cherche s'il n'y a pas un fil ou un petit bout de tissu qui a coincé. Oui, c'est comme ça qu'on réussit. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois? Ou qu'est-ce que je dois changer la prochaine fois? Qu'est-ce qui dépend de moi? Parce que vous savez, la solution catastrophique, c'est de dire « c'est l'autre ». C'est bouclé, 100%, c'est l'autre, bye bye, j'ai fini, c'est bon. Alors là, c'est sûr que vous allez aller d'échec en échec, en échec, en échec. Commençons par nous-mêmes, même si on n'a que 10% des fautes. Mais commençons par nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois? Qu'est-ce qui dépend de moi? Et puis, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Évitons le déni. Mais évitons aussi la culpabilisation. Ah, alors là, ça se corse. Hein, je vous dis, allez, creusez-vous, cherchez chez vous, puis après, je vous dis, surtout, vous ne culpabilisez pas. Oui, parce que chercher ce qui ne va pas chez nous, ça ne veut pas dire qu'on va se culpabiliser et être la plus mauvaise personne de la Terre. Simplement, là, j'ai raté mon coup, je n'ai pas bien fait, je ne me suis pas comportée comme j'aurais dû, mais ça ne veut pas dire que je suis un raté. Attention, ça, il ne faut jamais tomber à la culpabilisation. Et il ne faut pas hésiter, je pense, quelquefois à demander l'aide de quelqu'un d'extérieur. Et je vous avais cité le cas de cette jeune femme qui m'avait demandé « Mais pourquoi je rate toujours cet examen d'infirmière ?» Et j'avais dû dire la vérité, c'était un petit peu embêtant, mais il faut changer ton comportement. Et inutile de dire, la fois suivante, elle a eu son examen. Donc, n'hésitons pas à demander conseil aux gens de l'extérieur. Pas forcément des gens qui vous caressent dans le sens du poil, mais qui vont oser vous dire la vérité. Si la personne est honnête, elle va pouvoir vous aider et prier en conséquence. Et pour se consoler aussi de ces échecs d'apprentissage, pensez que les meilleurs profs, c'est ceux qui ont eu des difficultés. Vous savez, si vous avez un prof qui a toujours eu 19 sur 20 à tous ses devoirs, toute sa scolarité, il va, en général, à moins qu'il ait un don de pédagogie, il ne sera pas génial pour expliquer, parce que lui, il a toujours compris comme ça. J'ai un prof de maths qui n'a rien de pire. Il ne va pas savoir expliquer, c'est évident. Vous êtes tous des nuls. Parce que c'est clair, non, mais enfin, quand même. Voilà. Les meilleurs profs, c'est souvent ceux qui se sont battus, qui ont cherché à comprendre. Les meilleurs patrons, ça c'est André qui me le dit, c'est souvent ceux qui ont passé par le stade ouvrier pendant les jobs de vacances ou autres. Ils connaissent le boulot. Et André me disait qu'à Cannes, il y avait un directeur, hein, c'est ça ? Le directeur qui était Gazzard, qui connaissait tellement le boulot matériel des tourneurs, des fraiseurs, etc., qui se permettait de passer dans les ateliers quand ça n'allait pas. Il dit « Non, on ne s'y prend pas comme ça, on fait comme ça. » Et il faisait la pièce sous le nez du gars. Croyez-moi qu'il était respecté, tout directeur qu'il était. Parce qu'il savait, il avait souffert, il avait travaillé, il a vu du mal, certainement. Hein, ce n'est pas des métiers qui s'apprennent en claquant des doigts. Mais il était respecté parce qu'il avait passé par là. Il avait donc dû apprendre avec des échecs, j'imagine aussi. jamais réussi ce genre de choses du premier coup. Les meilleurs amis, c'est aussi ceux qui, quelquefois, ont eu des échecs en amitié. Et ils savent. Ils savent les choses à faire et à ne pas faire. Ils ont accepté de changer ce qui devait changer dans leur attitude. Et souvent, ce sont des amis recherchés parce qu'ils ont, on va dire, un charisme. Ils savent. Ben oui, parce qu'ils ont appris aussi souvent par l'échec. Et ça va nous amener au point suivant. Nos échecs peuvent aider les autres. Et si on voit nos échecs dans cette perspective, on se dit au moins ça vaut le coup. Je me suis cassé la figure, mais ça va servir à d'autres. Et j'appelle ça le recyclage de nos échecs. Vous savez que Dieu est un Dieu du recyclage. Il passe son temps à nous recycler, il nous fait naître de nouveau, il nous reconfigure. Et on a toujours un avenir, une espérance avec lui. Ésaïe 61:3. Car l'Éternel m'a envoyé pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La Bible aime bien, hein, les comparaisons comme ça, vous avez remarqué. En littérature, on voit ça souvent, et dans la Bible, c'est un procédé qui est très souvent utilisé pour nous frapper. Jérémie 31:13, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je les réjouirai après leur tourment. Alors quand on lit ces versets-là, on a tendance à croire, parce qu'on est humain, que c'est la poudre de perlimpinpin. Bzzzum, je change leur deuil en allégresse. Bzzzum, je change leur tourment en joie, etc. Désolée, c'est rare, ça marche comme ça. C'est le fruit d'un mot que je n'aime pas trop, mais c'est le fruit d'un processus. C'est le fruit d'un processus. Ah, vous allez me dire, bon mince, moi qui espérais comme ça que mes soucis allaient partir comme ça. Eh, dans la Bible, c'est rare hein, qu'on voit les choses. Ça arrive, mais c'est pas la poudre de perlimpinpin. Si on reconnaît nos échecs et qu'on s'efforce de ne pas accuser les autres de nos échecs, si on cherche ce que le Seigneur a voulu nous enseigner, alors nos échecs vont devenir des victoires. Mais ça suppose quelque chose de notre part. Pour que notre vêtement de deuil se transforme en joie, en splendeur, en voilà, vos vêtements de louange, il doit se passer quelque chose. C'est pas comme ça. Il y a un processus. Et je le répète, reconnaître nos échecs, ne pas accuser les autres, chercher ce que le Seigneur a voulu nous enseigner pour que nos échecs deviennent des victoires. Victoire, louange, grâce à la bonté, à la miséricorde de Dieu, à sa bienveillance. Il ne s'agit pas évidemment, attention, hein, de se réjouir de l'échec. Oh, j'ai échoué, merci Seigneur, c'est formidable. Non, franchement, non, 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 non. Mais de ce qu'on a pu faire de cet échec grâce à l'aide de Dieu. Parce qu'avec l'échec, on va comprendre des choses, on va comprendre les autres et on va moins juger. En disant, ben moi, je me suis cassé la figure, donc le prochain qui se casse la figure, ben je le comprendrai. On va compatir. Et on va être capable de leur montrer la sortie et de prier efficacement pour les gens. L'échec nous permet aussi de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous qui ne méritions rien. Hein. Je me souviens d'un jeune dans l'église il y a plus de 20 ans maintenant. Il a bien marché avec le Seigneur, il s'est fait baptiser. Et puis, il a fait jeunesse, hein, la formation de disciples, la jeunesse en mission, il travaillait bien à l'école et tout. Enfin, l'avenir s'annonçait super pour lui. Puis, pan, d'un seul coup, il a tout lâché. Je n'ai pas su exactement qu'est-ce qui a fait qu'il ait tout lâché, mais il a tout lâché. Et il a commencé. Alors là, il a bien lâché. Hein. Il n'a pas fait ça dans la demi-mesure. La drogue, la débauche, la fréquentation de voyous. Vraiment, il est allé fort. Hein. Le voyou du Val-Fouré, ce n'est pas les plus tendres. Et ça a duré quand même, on a prié pendant 5 ans. Ça faisait mal au cœur. Ça faisait mal au cœur. Et je pense que ça devait faire mal au cœur du Seigneur, parce qu'il avait vraiment un avenir et une espérance, ce gars-là. Et après 5 ans, il est revenu au Seigneur. Alors, je ne vous raconte pas comment, mais c'était super, c'était très drôle. Et son message aux jeunes, bon maintenant pour vous c'est un vieux, mais à l'époque il avait 24 je crois, hein, 24 ans. Quand il est revenu, il disait aux jeunes, Y aller pas, c'est pas la peine, j'y suis allée, ça vaut pas le détour. Hein. J'ai pris des risques. J'ai failli foutre ma vie en l'air. Il a failli se faire tuer d'ailleurs. Hein. C'est quand il y a eu un pistolet braqué sur lui qu'il a commencé à réfléchir. Et il était capable de dire aux jeunes, attention, moi j'ai fait le voyage, bah, surtout le faites pas. Ça vaut vraiment pas le détour. Et il a pu dire des choses très sensées, très, très fortes, parce qu'il avait fait ce voyage. Et cet échec de 5 ans dans sa vie, il a pu en faire un atout extraordinaire. Et il s'en sert aujourd'hui encore, avec les jeunes. Donc, notre échec peut aider les autres. Dans la même pensée, d'ailleurs, devinez pourquoi Joyce Meyer a tant de succès quand elle enseigne. Pourquoi elle a tant d'autorité et tant de force de conviction? Mais parce qu'elle s'est cassée la figure des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Elle est passée par là. Et elle sait nous dire, attention, danger. Voilà comment s'en sortir. Voilà comment moi, je m'en suis sortie. Il y a des gens comme ça. Ils ont vraiment réussi à prendre tous les échecs de leur vie et dire, ah, eh ben vous n'allez pas faire comme moi. Vous allez vous sortir de là. Je vais vous montrer le chemin. Donc, c'est devenu des victoires. Et c'est là que, on peut le voir chez Joyce Meyer, ce manteau de deuil, cette femme qui avait été abusée, qui avait souffert toutes sortes de choses, qui avait un caractère de cochon. Et pour cause, elle peut donner ce qu'elle donne aujourd'hui parce qu'elle a pris maintenant ce manteau de louange, ce manteau de joie, cette couronne. Alors qu'avant, elle était vraiment dans la misère morale et spirituelle. Pour un chrétien, un ambassadeur de Christ, les échecs qui ont été surmontés avec l'aide de Dieu sont transformés en atouts pour le service. Donc si dans votre vie, vous pouvez dire, tiens, il y a tel et tel et tel échec, petit ou grand, vous savez, aux yeux de Dieu, hein, franchement, le péché, c'est le péché, la désobéissance, c'est la désobéissance. Alors nous, les humains, on est très à cheval sur la grosseur du péché. Alors on ne veut pas faire comme les catholiques, péché véniel, péché mortel, hein, certes, mais dans la réalité... Hein, on a du mal à dire ça c'est bon et puis voilà, ça c'est nettement plus grave. La chaîne a été cassée avec Dieu, que ce soit un gros maillon ou un petit maillon, la chaîne a été cassée. Mais on a du mal, hein. Je reconnais qu'on a tous du mal. Mais tous nos échecs surmontés avec le Seigneur sont transformés en atouts pour le service de Dieu. Un petit peu comme un vieux soldat ou vous savez ces vieux guides de montagne qui connaissent tous les endroits dangereux de la montagne, vous pouvez les suivre, vous êtes en sécurité. Et je pense que les gens qui ont vécu beaucoup d'échecs dans leur vie, ils peuvent le mettre au service de Dieu. Et devenir des bons guides de montagne. Pour les gens plus jeunes, pour les gens qui découvrent le Seigneur, pour d'autres, nos échecs peuvent vraiment être des bénédictions. Et je pense que, pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Joyce Meyer, parce que tout le monde la connaît. Et je vous invite à aller la voir si, quand elle va passer à Paris, allez l'écouter, ou si vous voulez l'écouter sur Internet, justement, c'est ce vieux guide de montagne qui dit, voilà, j'y suis passée, je sais comment en sortir. Alors, il y a un autre problème de l'échec, et c'est peut-être celui auquel on pense souvent d'ailleurs, parce qu'il fait vraiment mal au cœur, c'est l'échec qui est seulement dans notre tête. Ah, celui-là, c'est vache, hein. Il est seulement dans notre tête. Alors, je vais vous donner quelques exemples, hein. C'est des gens qui, aux yeux des autres, ils ont l'air tout à fait normaux, mais au fond de leur cœur, la personne, elle est en échec et elle se dit « je suis un raté ». Mais pourquoi ils disent ça? Alors, je vous donner quelques exemples. J'ai connu quelqu'un avec d'excellentes notes, un doctorat réussi, prof à l'université. Et pourtant, cette personne a un sentiment d'échec permanent, permanent, qui la bouffe de l'intérieur. Une maman avec des enfants super, bien élevés, qui a vraiment réussi sa carrière de maman, sentiment d'échec. Des parents d'enfants qui ont réussi scolairement, mais il y en a un des enfants, il n'est pas allé tout à fait aussi loin, il n'avait pas tout à fait d'aussi bonnes notes que ses grands frères. Arrivé en terminale à l'école Notre-Dame, il s'est suicidé. Il avait un sentiment d'échec. Toute l'école pleurait. Je me souviens être rentrée dans l'école un matin. Tout le monde était défiguré, tout le monde pleurait, les profs, les surveillantes, les élèves. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont? Finalement, ils m'ont dit, ben voilà, terminale S, excellent élève. Mais il se sentait en échec, oh, parce que les deux grands frères étaient des génies, mais c'était un excellent élève. Sentiment d'échec. Vous voyez où ça peut mener, un sentiment d'échec? Pour d'autres, les parents, ils pensent avoir échoué parce que les enfants n'ont pas les diplômes souhaités, ou la vie qu'ils auraient souhaité, ou la situation qu'ils espéraient. Et là, on touche le cœur du problème de l'échec. Ce qu'on voulait, ce qu'on espérait, ce que papa et maman attendaient, ce que mon prof, mon pasteur ou mon église attendaient, les attentes et les espérances. Et c'est souvent là qu'on se sent en échec parce qu'on a du mal à atteindre ce que les autres veulent pour nous. Ou ce qu'on croit qu'ils veulent pour nous, c'est encore pire. Alors évidemment, je ne parle pas là des valeurs de la parole de Dieu. Hein. On souhaite tous que nos enfants soient dans la vérité, soient dans l'honnêteté. Vous avez bien compris, je ne parle pas de ça. Mais je parle des attentes humaines. Scolarité, travail, richesse, apparence, performance et compétitivité. Et pourquoi il y a tant de gens qui vivent en échec ? Parce qu'ils se comparent. La plaie de notre époque, et de toutes les époques, je crois, c'est on se compare. Compétitif, mes performances, ses performances. Et on se fixe des objectifs qui ne sont pas forcément ceux que Dieu me fixe. Alors je vis en échec, parce que je n'atteins pas les objectifs qu'il faudrait, que je voudrais ou que les autres veulent pour moi. L'attente des autres n'est pas forcément inspirée de Dieu. Si vos parents veulent absolument que vous soyez polytechnicien et que vous n'êtes que, je ne sais pas, Gaza, ben, et alors ? Est-ce que c'est vraiment un problème pour votre vie ? Est-ce que ça mérite de vivre dans l'échec ? Mais non. Mais vous savez, vous riez. Mais nous, on a connu une famille sensationnelle, je le répète à chaque fois. Une famille que j'admire, sur laquelle j'ai pris exemple bien des fois. Quand le quatrième a fait l'IUT, ils en étaient tous malades. Parce que les trois autres avaient fait cardiologie, orthophonie, voilà. Bon, ils s'en sont remis parce que c'était des gens qui aiment le Seigneur. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un sentiment d'échec. Papa était cardiologue. Les deux aînés étaient cardiologues. Bon, cardiologue réputé en plus. Bon, voilà. On rigole, mais en fait, hein, quand les gens le vivent. Voilà. Alors, il y a des choses, c'est peut-être pas le temps de Dieu. Là, je parle pour les enfants aussi. Des choses qu'on voudrait voir arriver, etc. Et puis, c'est pas le temps de Dieu. Il y a des choses à apprendre avant. On s'aperçoit aussi plus tard parfois que ce qu'on croyait être un échec n'est pas un échec. Dieu avait un plan qui tenait compte de l'état du cœur de la personne. Ah ! Et sur le coup, on se dit « Oh, mais c'est un échec, ça ne va pas !» Parce que notre attente était là-haut et on voyait les choses se passer comme ça, on voulait que les choses se passent comme ça. Et alors du coup, c'est un échec. Et en fait, le temps passe et on se dit « Waouh ! Dieu savait ce que je ne savais pas. » Dieu savait ce que je ne savais pas. Lui, il tenait compte de l'état de la personne, de l'état de son cœur. Effectivement, la chose n'était pas mûre ou ce n'était pas le moment. Pour Dieu, notre succès, le vrai succès, c'est la conformité à l'image de Christ. Et passer par l'échec, c'est quelqu'un qui a écrit ça, est peut-être la meilleure préparation à ce genre de succès. L'échec va nous aider à nous rendre conformes à l'image de Christ. Si nous nous soumettons à ces leçons, en attendant cette deuxième chance qu'il va nous donner. Donc, c'est un sujet de réflexion, je pense que vous pourrez en reparler dans les cellules. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre avec ce que Dieu attend de nous. Hein, se dire, ah bah oui, mais voilà, mes parents, ils s'attendent à ce que je fasse mes devoirs tous les soirs et que j'apprenne mes leçons. Waouh, ça c'est leur désir, mais c'est peut-être pas ce que Dieu veut. Non, vous ne pouvez pas utiliser ça. Non. Il y a des choses, vous savez très bien que ce n'est pas ça. Vous voyez bien de ce dont je veux parler. Ah. Bon. L'échec aussi peut être ressenti, et ça c'est dur aussi, dans les paroles ou les attitudes des autres. Ça, c'est pas marrant. Hein. Vous savez, les petits mots qui font mal. Tu n'es que, tu ne fais que, tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce qu'elle me disait, Emmanuel, tout à l'heure ? C'était intéressant. Ah oui, on ne peut pas te demander ton avis parce que tu es... Voilà, hein, c'est intéressant. Tu n'as pas eu tel examen ou tu n'as pas eu telle promotion. Alors, bah oui, tiens, on est en plein dedans. Tu n'as pas réussi ceci ou cela. Et un truc, alors là, moi, je vous mets en garde parce que mon père me faisait rire avec ça. Parfois, il disait, oh, moi, je suis qu'un petit chrétien. Il me faisait rire. Bon, enfin... C'est bien, t'es humble. Mais Franchement, attention, même dans l'Église, hein, la notion de petit chrétien. Alors, c'est quoi un petit chrétien? C'est un concept déjà qui me fait enrager. Bon, c'est la personne qui n'a pas de responsabilité visible. Elle ne sait faire que des petites prières. Elle n'a pas de grandes révélations. Elle ne sait pas donner de belles exhortations. Elle n'est pas capable de citer divers versets bibliques à la minute. Ce petit chrétien, en fait, il se sent vachement en échec. Mais qui a dit que c'était un petit chrétien? Oh, personne ne l'a dit. Oh, non, on ne se permettrait pas quand même. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on transmet? Le vrai succès du chrétien, ce n'est pas dans les hauts faits. Et ça, attention, si vous vous sentez en échec parce que vous vous croyez un petit chrétien, ce n'est pas dans les hauts faits, mais c'est dans la fidélité au Seigneur au quotidien. Ah! Et ça, personne ne le voit. Hein. La fidélité dans la semaine, quand personne ne vous voit, dans l'humilité, dans la vérité, dans l'intégrité. Moi, je suis sûre, mais je suis sûre que le Seigneur, parfois, il regarde ces petits chrétiens en disant « Waouh, quelle intégrité, quelle soumission à Dieu, quelle écoute de ma parole, quel témoignage auprès du patron, quel témoignage dans son travail ou avec ses voisins. » Waouh! Ah, ça vous étonne peut-être que Jésus soit impressionné? Mais moi, j'ai trouvé ça dans la Bible, avec la femme cananéenne. Hein, il n'a pas fait « Waouh! Quelle foi! Je n'ai pas trouvé ça en Israël. » Et je suis sûre que ces petits chrétiens qui sont fidèles dans la semaine, Dieu les regarde et fait « Waouh! » Quand personne ne les voit. Déjà ça, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et attention à ce qu'on transmet parfois hein, dans nos églises évangéliques. Le grand chrétien, c'est celui qui va prêcher, qui va faire lever des tas de mains, qui va guérir des tas de gens. Relisez l'épisode. Hein, tu as chassé des démons, tu as guéri, etc. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Ça fait peur. Hein. Donc attention à ne pas transmettre cette image. Il n'y a pas de petits chrétiens. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui obéissent à Dieu et des gens qui désobéissent à Dieu. Et je suis sûre qu'au ciel, on aura des surprises. Et on s'attend à voir Yom Kisho sur un trône, et etc., etc. Et peut-être on verra, la personne qui était là, fidèle tous les dimanches, qui était bien vue dans son travail, qui était aimée par ses voisins, qui... Et on dit, oh, moi je pensais que c'était le grand monsieur machin qui allait être sur ce trône. On aura des surprises, moi j'en suis sûre. Et souvent, moi je me souviens quand j'étais jeune, les gens qui m'impressionnaient dans l'église, ce n'étaient pas forcément les plus en vue. Mais ceux qui avaient cette droiture, cet amour de Dieu, cette obéissance à Dieu, qui rayonnaient par leur présence. Et ceux-là m'ont beaucoup influencé, plus que les grands messieurs qui venaient pendant les conventions, etc. Bon, c'est sûr que quand j'ai vu David Wilkerson, j'étais très impressionnée, mais justement c'est à cause de son humilité. Mais beaucoup de gens m'ont impressionnée, c'était des gens, des petits chrétiens. Mais ils avaient quelque chose de profond avec le Seigneur. Alors, gardons-nous de faire sentir les autres en échec, parce que ce sont des petits chrétiens, ce ne sont pas des petits chrétiens, Dieu le sait. Et enfin, il y a l'échec aussi. Parmi les plus difficiles à vivre, c'est l'échec des relations humaines. Ah, une île déserte, ça nous résoudrait nos problèmes. Mais bon, on vit en société, on vit en famille, et les échecs des relations humaines, alors là, c'est chaud. Hein. Les conjoints, les enfants, les parents, et puis aussi les collègues, les voisins. Parce que finalement, les collègues, on passe beaucoup de temps avec eux aussi, hein, quelquefois plus qu'avec la famille. Hein. Si on compte les heures, je crois, hein. Si on enlève les heures de sommeil, je pense qu'on passe plus de temps avec les collègues qu'avec la famille, ou les voisins, etc. Alors, ceux-là, c'est les plus difficiles à vivre. Et comment est-ce qu'on va les gérer? Alors, il y a les échecs qui ne sont pas souvent réparables. Et je me permets de parler du divorce, parce que vous savez très bien que la Bible dit « Dieu est le divorce ». Ceci étant, il est le péché, en général aussi. Hein. Là, c'est pareil, on fait des gradations, hein. Mais c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus dit, Mara, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et moi, je dirais aussi peut-être la dureté des oreilles pour écouter Dieu. Et le problème de tous ces échecs relationnels, que ce soit entre conjoints, parents, enfants, etc., eh ben, c'est qu'ils se font à deux. Là, c'est plus difficile à gérer. Quand on est tout seul, hein, on n'a pas révisé ses examens, on a un zéro. OK, hein, c'est facile à gérer. Mais les échecs relationnels, ben, il faut être deux. Et là, alors la facilité, c'est de dire l'autre a tort à 100%. Facile, ça règle le problème. Mais est-ce que ça le règle devant Dieu? Je ne crois pas. Alors, quelques petites pistes. Je pense que vous pourrez en parler aussi dans les groupes de maison. Ce que Dieu demande, rappelez-vous, au moment de la Sainte Cène, que chacun s'éprouve soi-même, que chacun s'examine soi-même. Que chacun s'examine soi-même. Et qu'il fasse les changements nécessaires pour avoir un espoir de changement. Hein, dans les relations humaines, que ce soit avec les amis, les enfants, les conjoints, on s'examine soi-même, on regarde ce qu'on peut changer, on demande à Dieu qu'est-ce que je peux changer pour que ça s'arrange. On écoute le Seigneur, et là, il y a un espoir. En tout cas, un demi-espoir, parce que la moitié du problème, déjà, va être réglée si moi, je fais ce que j'ai à faire. Si aucun n'est prêt à faire cet effort, évidemment, il n'y a pas d'espoir. Si un seul le fait, ça dépend de son courage, de la force, sa force de résistance, de celui qui a fait sa part. Mais le plus difficile, c'est vrai que c'est dans le mariage. Ceci étant, c'est une occasion de se remettre en question, de revoir les valeurs sur lesquelles on a bâti son couple, et puis de pouvoir aussi conseiller les autres. Là aussi, je pense que l'échec d'un mariage, ben, il faut aussi le transformer en atout. Il faut être réaliste, il y a des échecs. Ça fait partie des échecs, hélas. Mais on peut s'en servir aussi pour conseiller les autres. Et je sais que j'encourage dans l'Église ceux qui ont vécu des échecs à pouvoir témoigner aux jeunes avant qu'ils trouvent leur conjoint, pour leur donner quelques pistes. Dire, j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû voir ça, j'aurais dû écouter Dieu, j'aurais dû. Et je pense que leurs expériences peuvent être des très bons atouts pour nos jeunes. Il ne faut pas le négliger non plus. Et se dire, ah, ils ont raté leur couple, les pauvres, c'est fini pour eux. Non, ce n'est pas fini. Il y a une nouvelle vie pour eux maintenant. Ils peuvent apporter quelque chose aux autres. Ils peuvent, maintenant, ils peuvent se servir de leurs expériences, de leurs échecs, pour dire aux autres, attention, je suis allée là-bas, ça ne vaut pas le détour. J'ai fait ça, j'aurais jamais dû, etc., etc. Il ne s'agit pas d'accuser l'autre, hein, mais de vraiment expliquer aux jeunes comment on est arrivé là et comment on peut éviter d'en arriver là. Alors, pour les autres, comme on dit, hein, on n'est pas marié avec, donc c'est un peu moins gênant. Mais j'ai remarqué quand même qu'en changeant d'attitude et en priant, les voisins, les collègues, les amis, ils vont être touchés. Les enfants aussi. Plus dur, les enfants. Alors, parfois, quand on fait ce que Dieu demande, l'autre peut rester bloqué. Et là, c'est un échec douloureux. Mais Seigneur, j'ai fait, j'ai écouté, j'ai demandé conseil, j'ai prié, j'ai changé tout ce que je pouvais changer, et ça reste, la situation reste bloquée. Ça arrive, ça, hein? Alors, il y a une cause. Il y a une cause toute simple. C'est que les gens qui ne sont pas guéris n'arrivent pas à pardonner. Ou ils ont beaucoup de mal à pardonner. Ils pardonnent difficilement le fait que les autres ne soient pas parfaits. Et ça, c'est le problème des gens qui ont été blessés. Tellement blessés que c'est difficile de pardonner. Même si on est chrétien. Et là, il faut de la patience, de la prière, de la persévérance. Parfois, on en est même obligé de se protéger. Éviter de s'exposer. Alors, je ne dirais pas, il ne reste que la prière, parce que j'aime pas cette formule. C'est la prière, waouh, c'est top, c'est la première chose. Mais souvent, on dit ça, hein, moi-même, je le dis, hein, il ne reste que la prière. C'est un peu stupide, parce que c'est comme si on disait, oh, pour faire sauter ce mur, il ne me reste que 10 tonnes de dynamite. Ça ferait rigoler tout le monde, mais c'est un peu ça, hein, quand on dit, il ne reste que la prière. Ben oui. Il reste la prière, effectivement. C'est l'arme la plus efficace. Et je vais vous donner quelques exemples où des chrétiens ont eu affaire à des gens bloqués, des relations cassées au travail. Alors, ceux qui ont connu Marilyn Mitton connaissent le dynamisme de la personne, ceux qui se souviennent d'elle, elle habite à Rennes maintenant, et elle m'expliquait qu'elle était non chrétienne, elle était vraiment révoltée. Elle arrive au travail comme aide-soignante et elle tombe sur une infirmière qui était gentille comme tout, qui était chrétienne, qui priait pour elle. Elle ne le savait pas à l'époque. Et elle a essayé de pourrir la vie de cette infirmière, nuit et jour, pendant des mois. Cette pauvre femme, elle priait, elle priait, elle priait. Ça a été dur. Mais elle a gardé une bonne attitude. Elle a pas maltraité Marilyn. Elle aurait pu, hein, parce qu'elle m'a raconté les vacheries qu'elle lui faisait. Elle était vraiment méchante. Et après des mois de prière, de bonne attitude, eh ben Marilyn est devenue notre Marilyn, engagée avec le Seigneur. Elle s'est convertie. Je pense à une dame qu'on a baptisée en 99. Ah, c'était trop beau ça. Relation catastrophique avec son chef. Puis elle rencontre le Seigneur. Je me souviens le jour du baptême, sa chef était assise là. J'étais là-haut avec les baptisés. Et sa chef pleurait parce qu'elle a témoigné comment, quand elle a connu le Seigneur, non seulement elle a pardonné à sa chef, elle lui a demandé pardon. Et elle a établi une relation tellement forte avec cette chef que la chef était là en larmes le jour du baptême. Ah, vivre des choses comme ça, moi je voudrais le revivre. Hein. Parce que c'est le Seigneur, quand il nous permet de changer d'attitude, de rentrer à la prière, des relations catastrophiques comme ça peuvent changer. Je pense à ma voisine. Ma voisine est très spéciale. Elle vient de temps en temps, Thanksgiving ou autre. Il y a une période où elle s'est mise en tête que je lui avais fait du tort. Ce n'était pas le cas, mais une fois qu'elle a quelque chose dans la tête. Et pendant un an, je lui ai dit bonjour. Je l'ai saluée gentiment. Elle ne répondait pas, elle était furax. Je ne pouvais que prier, attendre. Je ne pouvais que prier. Et au bout d'un an, elle est venue avec un petit cadeau, avec les larmes aux yeux. Les choses ont complètement changé. Dieu agit, Dieu agit. Il y a des moments où, bon, voilà, il reste la prière. Parce que, bon, on a beau faire, les gens ne veulent pas entendre. Et pour les jeunes, je pense, cette histoire qui m'a frappée, moi, dans la façon dont Dieu gère les relations humaines. Alors, pour revenir en arrière, il y a très longtemps, très très longtemps, j'étais en quatrième. C'est vieux, hein ? Moi, on rigole pas. Et j'étais une élève très scolaire. Je suis restée d'ailleurs très scolaire. Vous voyez, j'ai mes petits papiers. Voilà. Je suis très scolaire. Et évidemment, je suis arrivée dans une classe de rebelles. Mais des rebelles, quelque chose de bien, dans un lycée qui était pourtant très strict. Il y avait une troupe de rebelles. Ils contestaient tout. Ils contestaient les profs. Ils contestaient surtout les enfants scolaires. Et donc, je me suis trouvée carrément en ligne de mire. La fille qui faisait ses devoirs, qui notait bien tout, qui écoutait les profs et tout, là. Ouh, ils n'aimaient pas ça. Les choses ont commencé à empirer. Septembre, octobre, novembre, ça devenait de plus en plus grave. Ils m'ont même tapé dessus une fois. Et j'ai prié, j'ai demandé conseil à la surveillante générale. J'ai prié, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne pouvais rien faire. Ils étaient enragés, ils étaient rebelles. Et tout ce qui n'était pas rebelle était lèche-botte. Ils utilisaient d'autres mots d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je priais, je pleurais. J'avais un an d'avance, donc je ramais pour tenir quand même une bonne place. Et c'était de plus en plus dur. Puis un jour, vous savez comment le Seigneur est intervenu? Le prof de français voulait absolument qu'on joue les pièces au lieu de les lire. Donc on prenait notre petit truc, là, notre petit bouquin, et puis on lisait rapidement, mais il fallait des gens qui soient capables de lire vite et de regarder le public. Donc, on faisait ça en classe. Et je ne sais pas comment c'est tombé sur moi. J'ai dû jouer Madame Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et comme on est une famille qui aime bien le théâtre, et que, bon, bah, je me suis lâchée, de toute façon, que vous voulez que je fasse. Et elles ont tellement ri, je les ai tellement fait rire, que du jour au lendemain, je suis passée de l'autre bord. J'étais une amie, j'étais une copine, et tout le monde a été gentil. Et je me souviendrai toujours ce moment où on distribuait encore les prix à cette époque-là. Et c'était dans un grand cinéma à Rouen. Et je sortais avec ma pile de bouquins. J'en avais eu pas mal cette année-là. J'avais bien travaillé. Et quand je suis passée près d'elles, elles m'ont applaudi. Vous savez, j'avais envie de pleurer. Je me disais, Seigneur, comment t'as changé les choses? Comment t'as changé les choses? Avec un petit truc bête, hein? Un rôle de théâtre où je les ai fait rire. Elles pensaient certainement pas que j'étais capable de faire rire qui que ce soit, parce que la lèche-botte de service. Voilà. Donc, voyez comment Dieu fait les choses. Mais il faut garder une bonne attitude. Il faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut prier, il faut persévérer. Ça a pris quand même quelques mois, hein, de souffrance. À propos du pardon, je voulais juste signaler que quand vous remarquez que quelqu'un a beaucoup de mal à vous pardonner, surtout si vous avez fait toutes les démarches possibles et imaginables, c'est bien sûr que l'offense a dû être douloureuse, mais c'est surtout qu'on a dû appuyer sur une blessure ancienne. Les gens qui ont des vieilles blessures, ils ont toujours du mal à pardonner. Donc, T'es occupée? Allez voir Elsa. Relation d'aide, mais il faut quelque chose. C'est très difficile de pardonner quand on s'appuie sur des... L'offense s'appuie sur des blessures anciennes. Voilà. Jésus nous donne toujours une deuxième chance dans le domaine relationnel. Il nous pardonne, il vient à notre aide, il connaît nos faiblesses et il ne nous accuse pas. Il nous dit plutôt, et j'ai bien aimé la prière de Maggie ce matin, « Viens, on va changer certaines choses. Et ce que tu ne peux pas réussir, je le ferai à ta place. Fais ta part. Et ce que tu ne peux pas faire, moi je le ferai à ta place. » Et je pense à ce verset qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Bien sûr, il y a les cas particuliers, c'est nos enfants. Je crois que c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup réfléchi. Il faut, même pour nos enfants, sortir de la culpabilisation. Il faut éviter, quand les enfants vont pas bien ou font des grosses bêtises ou autre, il faut éviter d'en faire un échec personnel. Bien sûr, on s'examine, on change ce qu'il faut changer. S'il faut demander pardon, on demande pardon. Mais il faut reconnaître que nos enfants, très tôt, ils ont leur volonté, ils font leur choix et ils ont leur responsabilité. Et je pense au père du fils prodigue, quand l'autre lui a demandé « donne-moi ma part d'héritage », la honte quoi. Il n'a pas l'air de bouger, il n'a pas l'air de se culpabiliser. Il n'y a aucun verset qui indique qu'il est choqué ou culpabilisé, qu'il s'en remet en question. Peut-être il était, je ne sais pas, mais il n'y a rien qui nous l'indique dans le texte. Il n'en fait pas un drame personnel. Il n'a pas l'air d'avoir honte pour sa réputation. Il laisse toute la responsabilité sur l'enfant qui a fait son choix. Et je crois que c'est très important, quand nos enfants vivent des échecs, ils font des bêtises, petits ou grands, c'est... Parce que moi, j'ai toujours tendance à me culpabiliser, on a élevé nos enfants, hein. Donc, c'est qu'on a fait forcément une bêtise quelque part. De toute façon, on en a fait plein, c'est pas grave. Tous les humains, eux, ils en feront à leur tour, faites pas d'illusions. Mais je crois qu'il faut arriver à un moment où on se dit, voilà, Seigneur, j'ai demandé pardon pour ce que j'ai fait de travers. Maintenant, c'est leur responsabilité. Parce que si on leur enlève cette responsabilité, on en fait des robots, des... Non, non. Il faut qu'ils gardent leur responsabilité. Ils ont fait un mauvais choix, ils vont payer le prix de leur mauvais choix. Alors évidemment, on souffre. Oh, bah oui. Oui, quand on les voyait mettre la main sur le four la première fois, ça nous faisait mal pour eux, mais voilà, après, ils ne leur mettront pas. Et je pense qu'il y a des moments où la responsabilité suppose aussi qu'on accepte qu'ils souffrent et qu'on ne se culpabilise pas. Malgré notre souffrance, je crois qu'il faut, se dire que c'est leur responsabilité. Et dans l'échec avec les enfants, hein, je pense, bon, quand on voit les enfants qui refusent de connaître le Seigneur ou qui ne veulent pas travailler dans leurs études ou qui vivent des choses difficiles, c'est leur responsabilité. Vous savez, à partir de 10-11 ans, ils savent ce qu'ils font. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas que ce soit qu'on en fasse un échec personnel. C'est l'échec des enfants. Ce n'est pas notre échec à nous. Désolée, les jeunes, mais voilà, c'est la vérité. Pour terminer, je pense à tous les chrétiens qui souffrent de ne pas être ce que Dieu voudrait. Ça aussi, c'est un sentiment d'échec. Hein. ou à ceux qui ne veulent pas revenir vers Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont trop loin dans l'échec. Hein. Il y a le maire d'une petite ville, là, dans les environs. Ses parents étaient chrétiens dans l'église de Pentecôte. Et un jour, je pris mon courage à deux mains. On était en réunion de mairie. Et à la sortie, je lui dis « Alors, vous priez ?» Il avait un gros problème. Il était menacé de mort par quelqu'un. Je lui dis « Alors, vous priez ?» Et elle me dit « Oh, je suis trop loin de tout ça maintenant. » Je dis « Mais non, justement, c'est le moment ou jamais. » Bon, voilà, je crois qu'il y a un moment où on peut se dire « Voilà, je suis trop loin, je suis trop en échec, ça vaut plus le coup. » Ou bien alors « Oh là là, je suis pas ce que Dieu voudrait que je sois, je suis toujours dans l'échec. » Il faut toujours se rappeler, Jésus seulement a pu pleinement être ce que Dieu avait prévu. Il n'y a que Jésus, hein. Ce qui n'a pas empêché beaucoup de gens de le croire en échec. Hein. Nous, on apprend toute notre vie à rester ou à entrer dans les plans de Dieu. Toute notre vie. On est tous en chemin, il n'y en a qu'un qui est arrivé, c'est Jésus. Et lui, jamais, il va nous considérer comme un raté. Il est venu pour nous donner une chance, un nouveau départ, naître de nouveau. Et il nous aide à nous relever chaque fois qu'on s'est cassé la figure. Et je voudrais juste vous rappeler quelque chose qui me choque dans la vie de Jésus, c'est qu'il n'a jamais jugé sévèrement le collecteur d'impôts, Collabo, la femme qui n'avait aucune valeur morale, le jeune homme trop attaché à ses richesses ou le père qui manquait de foi. Vous l'avez vu gronder, ces gens-là ? Relisez, hein, vous verrez. Par contre, les hypocrites religieux, attachés aux apparences, ceux qui ne voulaient jamais reconnaître leurs échecs, qu'aller prier au coin des rues, etc., ceux qui couvrent leurs failles et leurs désobéissances à coups de religion et de sacrifices, ceux qui cherchent à donner autour d'eux une image lisse, parfaite, respectable. Alors là, Jésus était dans des colères. Vous avez vu au temple la colère noire de Jésus, on pourrait dire, devant ces gens. C'est le seul moment où on voit Jésus en colère. L'hypocrisie, la double vie, ça c'est quelque chose que Jésus n'accepte pas. L'échec, par contre, il fait partie de notre vie, il fait partie de notre apprentissage. Et je pense qu'il faut qu'on le voit comme un « not yet », comme disait Rémi. Pas encore. C'est une marche à monter. C'est un exercice de sanctification, c'est une occasion de demander l'aide de Dieu et la prière des autres, c'est une occasion aussi d'aider les autres, c'est un exercice d'humilité pour nous, oh, on n'aime pas trop ce mot-là, c'est un exercice d'humilité. Vous savez, cette humilité, dans Proverbe 15, 33, vous connaissez le verset, l'humilité qui précède, voilà.
Ça donne de la matière pour les groupes de maison. Je vous enverrai le questionnaire pour vous aider. Et vous pouvez réécouter aussi ce message sur Internet. Certains connaissent parmi nous le pasteur Pawson,